Moi, je m'appelle Joanne Dupré, je suis chercheur au laboratoire du traitement du signal et de l'image.
Je m'appelle Julien Modolo, je suis chargé de recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.
Un rythme cérébral, c'est une oscillation entre différents états. Là, on parle d'oscillation électrique dans le cerveau, parce que ce qu'on mesure, c'est l'activité des neurones, donc une activité électrique. Donc quand on parle de rythme ici, là, dans cette conférence, ça va être tout ce qui touche justement aux oscillations neuronales, aux oscillations électriques des populations de neurones. Il y a différents types de rythmes. Les rythmes, on les caractérise par plusieurs caractéristiques, notamment la fréquence, donc ça c'est la vitesse à laquelle notre oscillation oscille. Il y a des caractéristiques d'amplitude, de moment dans lequel on se trouve, et tout ça, ça forme des rythmes plus ou moins spécifiques qu'on va retrouver à différents endroits du cerveau.
Si on regarde les rythmes cérébraux, par exemple, quand tout va bien, dans certaines fonctions, comme la fonction motrice, eh bien, on a l'impression que dans certaines maladies, comme la maladie de Parkinson, ces rythmes vont se déréguler, et en termes de communication neuronale, on peut interpréter ça effectivement par le fait que, eh bien, si je me mets à parler, admettons, de façon très aiguë ou très grave tout d'un coup, ou beaucoup plus lentement, ou beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus compliqué de comprendre ce que je dis. La façon dont je me représente la façon dont les régions cérébrales fonctionnent, c'est un peu la même chose. C'est que s'il y a une région qui se met à dysfonctionner, eh bien, sa communication avec les autres régions peut être altérée. Et donc, ces régions-là qui travaillent ensemble pour effectuer certaines fonctions, eh bien, du coup, n'y arrivent pas aussi bien. Donc c'est vraiment une représentation, je crois, assez fidèle de s'imaginer qu'il y a un peu une perte d'harmonie dans l'activité cérébrale.
Alors il y a plusieurs techniques différentes, il y a des techniques non invasives, hein, c'est ce qu'on préfère utiliser habituellement, comme l'électroencéphalographie. Donc là en fait on pose des électrodes qui sont assez petites, je dirais que ça fait la taille d'une pièce d'un centime, peut-être deux centimes. On les pose sur la surface du crâne, sur ce qu'on appelle le scalp, et ça nous permet d'obtenir la somme de toutes les activités électriques qu'il y a en dessous dans le cerveau. Après, il y a d'autres techniques qui sont un petit peu plus invasives, où là, on va insérer des électrodes directement dans le cerveau, des électrodes de différentes tailles qui vont nous permettre soit du coup de mesurer l'activité de toute une population de neurones très importante, soit ce qu'on appelle des microélectrodes qui vont vraiment nous permettre d'avoir jusqu'à l'activité unitaire du neurone. Donc à toutes ces échelles spatiales-là, c'est le genre de technique qu'on utilise. Après, il y a aussi des techniques non invasives qui sont basées sur l'analyse des champs magnétiques, la magnétoencéphalographie, qui nous permet également de recueillir les rythmes.
Les différentes phases du sommeil, parce qu'en fait on n'a pas un état de sommeil, on en a plusieurs, à travers lesquels on passe pendant plusieurs cycles dans la nuit. Chaque phase de sommeil, elle est caractérisée par des changements assez profonds dans les rythmes cérébraux, et qui explique par exemple que quand on dort, on n'est plus de motricité volontaire, on ne soit plus conscient de ce qui se passe aux alentours, etc. Donc il y a des altérations très profondes. On aura la maladie de Parkinson, donc on a des dérégulations de rythme qui causent donc des déficits dans la fonction motrice. On va également aborder l'épilepsie. dans laquelle effectivement on a des neurones qui vont avoir des activités beaucoup plus transitoirement, bien sûr de façon beaucoup plus synchrone et importante, ce qui va générer des crises d'épilepsie. Alors la synchronisation, admettons si on parle exactement en même temps et qu'on dit la même chose en même temps, mais notre discours sera parfaitement synchronisé. Pour des neurones qui communiquent à l'aide de messages électriques qu'ils envoient à des instants précis, et bien si des neurones, admettons, envoient des messages électriques exactement en même temps, ou alors avec un décalage, mais que ce décalage est toujours le même, et bien à ce moment-là, on parle de synchronisation. Et cette synchronisation, parfois, elle est désirable parce qu'on est obligé d'avoir de la synchronisation pour avoir de la communication neuronale, mais un excès de synchronisation, donc on a beaucoup trop de neurones qui ont la même activité au même moment, peut mener à des symptômes. Par exemple, encore une fois, c'est le départ d'une crise d'épilepsie, c'est une synchronisation anormalement élevée d'un groupe de neurones et qui génère une crise. La synchronisation, c'est quelque chose de très délicat, puisque il faut qu'il y en ait un petit peu pour qu'il y ait effectivement une communication entre les aires cérébrales. Si on en a trop, à ce moment-là, c'est un problème, puisqu'en fait, ça empêche la communication cérébrale et ça entraîne donc des manifestations très stéréotypées. Ça peut être des convulsions, des mouvements involontaires. Il y a plusieurs techniques qui permettent d'évaluer la synchronisation neuronale. Joanne parlait de l'électroencéphalographie et de la magnétoencéphalographie. Ça permet effectivement d'évaluer la synchronisation neuronale. On a également des techniques un peu plus invasives qui peuvent permettre d'étudier ça. Par exemple, des électrodes qu'on place à l'intérieur du cerveau, donc dans différentes procédures chirurgicales par exemple. Et là, on peut étudier vraiment de façon très précise dans le cerveau quelles régions cérébrales sont synchronisées, désynchronisées.
Nous allons vous faire découvrir la plus incroyable des chirurgies, celle qui intervient ici, au cœur de l'objet le plus compliqué de l'univers, le cerveau humain. Or, cette chirurgie, elle réussit, Martine, elle dépanne le cerveau.
Et oui, dans de nombreux cas, on peut arriver à remettre le cerveau en état. C'est absolument prodigieux et c'est une chirurgie très particulière qui se fait au centième de millimètre près, parfois au neurone près, à la cellule nerveuse près. Alors, quelle que soit l'habileté du chirurgien, il se fait aider par des instruments d'une énorme précision, par des robots, des machines hyper sophistiquées et de temps en temps, un bloc opératoire de chirurgie du cerveau, ça ressemble à un cockpit d'avion.
La façon dont les informations s'agrègent entre elles par les rythmes pour faire émerger une représentation mentale, c'est encore quelque chose qui est sujet à débat en fait dans la communauté scientifique. Il y a des gens qui pensent que les oscillations facilitent ça, et que la synchronisation justement des oscillations à l'endroit où c'est rouge et l'endroit où c'est chapeau, ça permet de dire c'est un chapeau rouge. Et d'autres qui ne sont pas tout à fait convaincus encore par ces hypothèses-là. Je pense qu'on pourra en reparler dans quelques années. Mais oui, c'est encore sujet de recherche en cours.
Ouais. Je dirais même qu'en fait, ce problème-là qui consiste, comme disait Joanne, à agréger plusieurs informations et à donner lieu à une perception unique ou un comportement unifié, c'est un problème qui est fondamental en neurosciences. Essayer de, par exemple, à partir d'une scène où on a des composantes auditives, visuelles, donc toutes les composantes sensorielles, comment ces composantes-là, elles s'unifient dans une perception qui est unique, qui est notre perception consciente de ce moment-là. Actuellement, je suis en train de voir quelque chose, d'entendre, mais je ne perçois pas tout ça séparément. Je perçois ça comme un tout unique. Et ça, c'est encore assez mystérieux. Donc l'idée, c'est qu'on a beaucoup de désordres neurologiques dans lesquels on a une altération des rythmes cérébraux. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut modifier ces rythmes cérébraux d'une façon où on supprime cette activité, ce rythme anormal, et voire même imposer un rythme qui soit beaucoup plus normal pour traiter les symptômes. Dans la maladie de Parkinson, c'est ce qu'on fait. On a plusieurs régions du cerveau qui ont une activité rythmique très régulière, anormale, et en stimulant une des régions de ce réseau, on a plusieurs régions qui sont très connectées dans lesquelles cette activité se propage, si on stimule une d'entre elles, alors on casse un peu ce rythme, la propagation de ce rythme anormal, et à ce moment-là, on a une altération des symptômes qui est dramatique. Chez certains patients parkinsoniens, on a une diminution du tremblement par ces techniques de 90%. Donc ça permet vraiment très efficacement, en régulant les rythmes, d'atténuer les symptômes qui sont associés à la dérégulation de ces rythmes. Alors la stimulation cérébrale profonde, c'est une intervention initiale dans laquelle on va implanter des électrodes profondément dans le cerveau. On va implanter également un stimulateur, des fils qui vont relier les électrodes au stimulateur, et après on laisse implanter de façon chronique ce stimulateur et les électrodes, et qui vont délivrer du courant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au patient pendant des années, jusqu'à ce que la batterie s'épuise, auquel cas on change la batterie. Mais c'est quelque chose, c'est tout à fait un traitement chronique dans lequel on est obligé régulièrement d'adapter les paramètres de stimulation, parce que la maladie continue à évoluer, elle. C'est pas un traitement curatif, donc on est obligé d'adapter un peu l'intensité de la stimulation, la fréquence, pour pouvoir continuer à améliorer les symptômes malgré l'évolution de la maladie.
La santé avec la journée mondiale contre la maladie de Parkinson, elle touche près de 120 000 personnes en France. Chez les patients encore jeunes, une opération est possible, opération du cerveau, elle soigne les symptômes mais ne guérit pas de la maladie. Dominique Chimbakala, Sylvain Gauthier.
Essayez de balancer les bras comme ceci, très bien.
Le corps semble souple, mais le handicap est bien là. Isabelle Gagneux, 49 ans, souffre de la maladie de Parkinson. Mais depuis son opération en 2002, elle porte une pile qui lui permet de masquer les symptômes.
Donc le geste est précis, d'accord.
Une fois l'an, les médecins coupent le dispositif, le temps de constater l'évolution du mal.
Voilà, c'est arrêté.
Ouais, Vous allez faire l'épreuve, le doigt sur le bout du nez, voilà, la lenteur des gestes.
Sans cette pile, Isabelle Gagneux serait prisonnière de sa maladie et de ses contraintes.
J'ai plus à penser toutes les deux heures, prendre mon cachet. Combien j'en prends? Un quart, trois quarts, la moitié. Ça, j'y pense plus.
Lors de l'opération, les médecins ont implanté des électrodes dans sa tête, à 15 cm du crâne. Reliée à des piles, elle stimule la partie du cerveau responsable des raideurs, des tremblements et gomme les symptômes de la maladie.
Alors l'épilepsie, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que autant la maladie de Parkinson, on a les régions qui sont impliquées sont les mêmes, en fait, sont très cohérentes d'un patient à l'autre. Tandis que dans l'épilepsie, on a une beaucoup plus grande variété des atteintes possibles, des origines également. Parfois, on n'est pas vraiment capable d'identifier l'origine d'une épilepsie. Parfois, ça peut être génétique, des fois, ça peut être lésionnel. C'est-à-dire, on a un accident, on a un traumatisme crânien, on a une lésion, on développe de l'épilepsie des années après. Donc, parce qu'on a une très grande variabilité des causes d'épilepsie, c'est beaucoup plus difficile à traiter et d'avoir un jeu de paramètres de stimulation qui fonctionne pour tout le monde. Dans le Parkinson, par exemple, on sait que si on stimule les patients, si on envoie 150 impulsions par seconde à une certaine intensité, ça fonctionne. Chez des patients épileptiques, eh bien, y a des études qui rapportent que ça marche à 5 impulsions par seconde, d'autres à 100, d'autres à 200. Donc c'est très difficile de savoir. Et dans l'épilepsie, c'est beaucoup plus compliqué parce que autant dans le Parkinson, on voit tout de suite si quelqu'un, par exemple, arrête de trembler, c'est immédiat. Eh bien, l'épilepsie, c'est caractérisé par des crises. Et des fois, on peut avoir 2, 3, 4 crises par jour. Donc avant d'évaluer l'effet sur le nombre de crises d'épilepsie, eh bien, il faut attendre plusieurs jours. Et puis après, on peut adapter les paramètres, par exemple. Donc c'est beaucoup plus compliqué de standardiser les protocoles dans l'épilepsie que dans le Parkinson.
Moi, j'ai surtout entendu parler de progrès en termes de type d'électrodes qu'on utilise, qui vont permettre de contrôler plus efficacement comment se répartit le champ électrique qu'on va impulser dans les noyaux qu'on stimule. Parce qu'actuellement, les électrodes qu'on utilise dans la maladie de Parkinson, elles vont par trois. Et on stimule en ce qu'on appelle en bipolaire, c'est-à-dire qu'on utilise deux électrodes entre lesquelles on va faire passer un courant, mais on ne maîtrise pas trop le volume que prend ce courant. Et la difficulté, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui va être stimulé, en fait. Et les nouvelles électrodes qui vont voir le jour, enfin qui sont actuellement déjà en cours d'étude, elles vont permettre justement, parce qu'elles seront plus nombreuses et réparties de façon assez intelligente sur le pourtour de l'électrode, elles vont permettre de contrôler justement vraiment le volume de courant qu'on veut injecter à cet endroit précis du noyau qui nous intéresse.
Il y a une notion qu'on appelle de boucle ouverte et de boucle fermée. C'est-à-dire, par exemple, boucle ouverte, eh bien, je stimule tout le temps cette région cérébrale, indépendamment de si elle est plus calme, par exemple, ou si elle fonctionne à peu près normalement. Je la stimule quand même, je cherche pas à savoir ce qui se passe. Eh bien, maintenant, il y a des protocoles qui se mettent en place en boucle fermée, où au contraire, on enregistre l'activité de la structure qu'on va stimuler, puis s'il y en a besoin, on la stimule. Ça permet plusieurs choses. C'est beaucoup plus fin, parce qu'on stimule que quand on en a besoin. Ça permet également d'économiser de la batterie. Et donc ça, c'est probablement aussi vers ce genre de choses-là. Il y a des tests dans ce sens, dans l'épilepsie, par exemple. Il y a un appareil qui fonctionne apparemment très très bien, qui, après 9 ans d'utilisation, mène à 75% de diminution des crises chez les patients qui ont été implantés. Donc cette méthode-là, de stimuler en boucle fermée, donc uniquement quand il y en a besoin, ça a l'air de fournir des résultats assez prometteurs.
Il y a des progrès aussi qui ne sont pas forcément liés aux progrès techniques, il y a des progrès qui sont vraiment liés aux avancées en termes de connaissances que nous on agrège et qui correspondent au fait qu'on sait maintenant qu'il y a certains patients chez qui la stimulation ça ne marchera pas. Ou alors ça marchera un petit peu mais ça va entraîner plein d'effets secondaires. Et les grands progrès qu'ont fait la stimulation depuis maintenant les presque 25 ans que la stimulation existe, c'est de trouver des méthodes de sélection de patients qui sont efficaces et qui nous permettent de dire d'accord, ce patient-là on le stimule parce qu'on est sûr et certain que ça va fonctionner. Et ça c'est des choses dont on ne disposait pas forcément au tout début de la stimulation parce que pour des raisons de justement de manque de connaissances des structures qu'on stimulait et de ce à quoi elles servaient en fait. Et ça c'est des avancées qui continuent encore aujourd'hui.